Donc, bonjour et bienvenue au podcast Écoféministe. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme Écoféministe, éco comme dans Écoféministe, qui est un mouvement qui fait le lien entre l'exploitation des femmes et minorités et de la destruction de l'environnement qui nous inspire grandement. Aussi, éco parce que l'on espère que le contenu de notre podcast va résonner chez vous. Donc, bienvenue au deuxième épisode. Au troisième épisode de la quatrième saison de ce podcast, je suis Maya, la gestionnaire et animatrice du podcast, et j'utilise les pronoms féminins. Aujourd'hui, je suis accompagnée des animatrices du balado Apéro Sexo, professionnelles en sexologie, André et Rosie.
Bonjour!
Moi, c'est Rosie. Oh, vous allez avoir de la misère à différencier nos voix. Oui, vas-y donc. Moi, c'est Rosie, pronom féminin aussi.
Moi, c'est André, pronom elle aussi.
Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour parler dans ce podcast.
Mais ça nous fait plaisir, on est vraiment contents d'être là.
Oui!
Oui, donc voulez-vous vous présenter rapidement? Vous faites quoi?
Bien, le podcast Apéro Sexo, comment ça a parti, mettons?
Oui, et, vous pouvez, oui.
Rosie puis moi, on a commencé le bac en même temps, puis ça a donné que le bac, qu'on l'a commencé pendant la COVID, fait qu'on est devenus comme besties en Zoom.
Oui.
Puis à travers comme l'amitié qu'on a créée, on a décidé de créer une page d'éducation à la sexualité qui, au départ, s'appelait Les Déculottés. Puis on a fait ça pendant 3 ans. Puis c'est dans la dernière année, en fait, qu'on a décidé de comme commencer à Apéro Sexo, on s'est dit, OK, c'est le temps de faire un balado, de rendre les connaissances qu'on a apprises au bac accessibles à tout le monde. Puis on trouvait que le balado, c'était comme une belle forme de média pour rendre ça accessible.
Mm-hmm. Puis on continue de faire de l'éducation au quotidien sur la page qui s'appelle maintenant Apéro Sexo.
Exact.
Et le balado et maintenant des podcasts dans les écoles. Fait qu'on a, maintenant qu'on a plus de temps, on a ouvert aussi à toutes les autres possibilités qu'Apéro Sexo peut apporter.
Exact, oui.
Ah, les podcasts dans les écoles, maintenant, vous faites ça aussi?
Oui, oui, des petites conférences, des podcasts live, des cégeps, on en a fait un au HEC cette année aussi, fait qu'on on étend un petit peu notre reach de plus en plus.
C'est oui, mais c'est comme des conférences, mais sous format plus balado, exact. Comme on fait en ce moment, en fait. Oui, oui.
Et vous aimez ça?
Oui, c'est vraiment le fun.
Oui, c'est le fun, puis quand il y a un public aussi, on peut échanger, on peut répondre aux questions en live, fait que c'est très le fun.
Oui,
oui.
Oui. Et votre compte Instagram a maintenant 15 000 abonnés. Pourquoi vous pensez que ça fonctionne aussi bien?
Bien, premièrement, il faut dire que oui, ça fonctionne bien, mais parce qu'on met aussi beaucoup de temps. Mm-hmm. Tu sais, ça se bâtit pas tout seul. Ouais. Fait qu'André puis moi, on a été assidus sur la publication. Veux pas aussi, on est tout le temps à l'affût de comme, OK, c'est quoi le sujet genre qu'on pourrait apporter, parler en ce moment, mm-hmm. Les trends, tout ça.
Ouais.
On crée énormément de contenu.
Ouais.
Puis je pense qu'on a appris un peu comme de nos erreurs à travers ça, mais on essaye de créer du contenu relatable, puis choquant, mais choquant dans le bon sens.
Oui, on essaie d'aller attirer le plus de possible en allant toucher des sujets qui sont tabous, en fait. Ouais. Puis la sexualité, en général, c'est tabou, fait que c'est comme pas difficile comme mission à aller faire, là. Puis, tu sais, les gens pensent parfois qu'Apéro Sexo, ça sort un peu nulle part. Oh my God, vous avez gagné full de popularité rapidement. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'on a commencé, justement, quand je parlais des déculottés, il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on fait de la création de contenu, qu'on fait de la vulgarisation sexologique sur les réseaux sociaux. Mais on a archivé ces anciens posts-là, parce que c'était pas beau, là. On n'a pas de background en design graphique, là, fait qu'on a comme refait un peu notre Instagram, mais c'est que ça fait 4 ans qu'on travaille de façon totalement bénévole pour rendre accessible. Fait que je pense que le succès qu'on a est dû un peu au fait qu'on est autodidacte puis qu'on apprend au travers des années aussi, là, puis on travaille très fort.
Puis on n'a pas vraiment eu le choix de passer par les déculottés parce qu'on a beaucoup appris à refaire, les erreurs à ne pas refaire. Parce que quand on a comme décidé de tout achever, déculotter puis tout, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés sur le compte.
Non,
là. Vraiment pas. Ouais. Mais en même temps, ça nous a comme... Quand on a commencé à Apéro Sexo, on avait tellement des bases solides grâce aux déculottés, fait que le contenu qu'on créait était plus beau, plus pertinent, plus intéressant. Fait que on n'a pas eu le choix de passer par là. Puis je suis contente qu'on l'ait fait dans des moments comme qu'on n'avait pas 15 000 abonnés, là, qu'on ait fait tout ça. Ouais. Fait que maintenant, tu sais, des fois, on parle de comme à quel point les réseaux sociaux, il faut que tu sois à jour, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois.
Ouais.
Des fois, on regarde des contenus qu'on a fait il y a comme 6 mois, puis on est comme, qu'est-ce que c'est ça?
Ça n'a plus rapport.
C'est ça.
Puis pour enchérir, je pense que aussi le contenu qu'on crée vient vraiment chercher les gens. Je pense qu'il y a un besoin. Les gens demandent du contenu qui est accurate, qui est véridique, qui fait rire aussi, qui détabouise, puis c'est ça qu'on offre. Fait que je pense que le succès d'Apéro Sexo vient de là aussi beaucoup. Là. Ouais.
Oui, puis je voulais juste prendre le moment aussi pour vous dire que vos créations sur votre Instagram, ça marche vraiment comme à chaque fois que je vois un de vos posts, je suis comme, oh mon Dieu, je veux savoir comme la suite et là, je veux swiper et je veux comme liker. Donc, je veux vraiment vous féliciter pour ça parce que c'est vraiment impressionnant et tout votre design, c'est vraiment, vraiment beau. Donc,
merci. On a travaillé avec une designer graphique, on doit dire. Ouais. C'est pas juste nous, Candide Studio, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés.
Ouais.
Mais oui, c'est ça, notre but, c'était vraiment de faire de l'éducation, fait que donner les bonnes informations, mais en gardant comme l'esprit un peu humoristique, relatable, le fun, qu'on fait dans le balado, mais aussi dans la création de contenu.
Ouais.
Fait que
c'est ça.
Ouais.
Mmh. Et qu'est-ce que vous aimez le plus de vos créations? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est l'Instagram? C'est dans les écoles? C'est quoi?
Moi, c'est d'être avec toi. Genre, de créer Non, c'est quétaine, mais c'est vrai. Genre, j'aurais jamais autant de fun si je faisais ça tout seul.
Ouais.
Tous les bons coups puis les mauvais coups, on les vit ensemble.
Mm-hmm.
Fait que quand il y a quelque chose qui va mal, on est les seuls qui peuvent comprendre ce qui va mal. Puis genre que ça nous pogne au cœur puis on a les larmes aux yeux. Puis quand on vit des pinch me moments, on les vit ensemble.
Aussi.
Fait que c'est pas... Genre, c'est tellement... on savait pas à quel point on allait triper de faire le projet. Puis aussi, ensemble, tu sais, c'est la première fois qu'on était amis, mais je veux dire, on n'avait jamais travaillé ensemble.
C'est ça, d'être collègues, en plus d'être amis, comment ça allait se passer, tu sais, ça peut changer une dynamique. Puis finalement, ça fait un an, puis on tripe notre vie.
C'est ça, puis Apéro Sexo ferait aucun sens l'une sans l'autre.
Ouais,
tu sais, fait que c'est vraiment comme... Fait que je pense que ça, c'est ce qui fait qu'Apéro Sexo marche, mais qu'on aime ça.
Ouais.
Qu'on est capable de créer du contenu chaque jour, puis qu'on a encore du plaisir à le faire de façon gratuite, tu sais.
Puis tu parlais de comme... c'est pourquoi t'aimes ça, puis les pinch me moments, c'est super gratifiant, là, le travail qu'on fait. On a des retours tellement positifs. Comme je disais, tu sais, je parlais du besoin, puis les gens nous le communiquent, ce besoin-là, puis c'est dit « Oh mon Dieu, ce que vous faites, c'est important, puis ça vient nous chercher, puis on le vit ensemble, Rosie puis moi, puis... » Oh mon Dieu, c'est juste, c'est tellement un bon feeling d'être comme, OK, on avait une mission qui est de rendre accessible l'éducation à la sexualité de manière gratuite, de manière, tu sais, le plus outreach possible, puis ça fonctionne.
Mm-hmm.
Puis on est capable de, comme, se le rappeler ensemble à quel point on est reconnaissante de tout ça. Fait que c'est vraiment cool.
Ouais.
Et je suis un peu curieuse de savoir où vous avez trouvé le nom Apéro Sexo, parce que je sais pas s'il y a une histoire ou pas, parce que je trouve ça vraiment catchy, ça rime, Apéro, j'aime ça.
Ben, on a cherché vraiment longtemps pour un nom, là. Oh my God.
Des mois. On avait dans nos notes de ciel des nuages de mots, là, tu sais, quand on se faisait au primaire, là, c'est genre, OK, toutes les... On avait, là, des listes et des listes et des listes. Puis, à un moment donné, out of nowhere... Andrea se fait inviter dans un apéro sexo avec les gens de sexologie.
Oui, c'est un apéro avec comme du monde du bac en sexo. Puis le nom du groupe Facebook, du groupe Messenger, ça s'appelait Apéro Sexo.
Puis là, Andrea était comme...
Oh mon Dieu.
Est-ce que c'est du plagiat? Est-ce qu'on peut prendre? J'étais comme... Dude, c'est un nom Messenger, je pense qu'on peut. Puis on était comme... Ça se dit tellement bien.
Oui.
Puis après qu'on a eu l'idée... Ben, c'est pas nous qui a eu l'idée, mais le logo, genre les deux coupes de vin qui sont comme des seins, c'était... Genre tout faisait tellement
c'est
de sens.
C'est ma tatoueuse, en fait, qui a eu l'idée, là, puis on était comme, c'est incroyable. Ouais, ouais, fait qu'on a vraiment...
C'est ça. Mais c'est vraiment comme... C'est juste arrivé au parfait moment.
Ouais.
On avait des noms, mais il n'y avait jamais le comme...
Les petits trucs qui marchaient.
Ouais.
Ouais.
Puis quand on a vu ça, quand on en a parlé, il fallait que les deux aient un coup de cœur en ça aussi.
Ouais.
C'est comme...
Ouais.
Pour tout ce qu'on fait, il faut que les deux...
On s'accorde.
Oui, c'est ça. Fait que là, les deux, comme, être comme... OK, non, c'est ça.
Ouais.
Genre, on l'a trouvé, tu sais.
Fait que c'est la petite histoire.
Oui, c'est ça la petite histoire.
C'est mignon. OK, donc maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on peut se lancer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, la charge mentale chez les femmes dans les relations hétérosexuelles. Donc, tout d'abord, voulez-vous comme définir un peu c'est quoi la charge mentale?
Oui, bien c'est comme... On peut aussi l'appeler charge cognitive, mais ça va être une surcharge d'organisation, de gestion, de toute... Le travail invisible qu'on pourrait faire, mettons, si on parle d'une relation, ça va être au sein d'une relation. Fait que ça pourrait être les tâches ménagères, ça pourrait être l'organisation d'une journée, l'organisation d'une date, l'organisation de rendez-vous au médecin avec les enfants, de, tu sais, tout ce qui rentre là-dedans. C'est comme vraiment une surcharge mentale du travail invisible qu'on ne pense pas, qui est tout ce qui est relié à l'organisation puis à la gestion du temps puis du quotidien.
Oui. Tu sais, quand on pense à comme... Par exemple, moi, mon modèle de parent, tu sais, mettons, j'avais une fête d'amis.
Ouais.
Ben, c'est ma mère qui s'occupe de, comme, acheter le cadeau, qu'est-ce qu'on doit préparer, puis c'est comme si, dans les relations hétéro, puis là, évidemment qu'on va généraliser, mais c'est comme si l'homme ne voyait pas toutes les petites choses à faire par rapport à un rendez-vous au dentiste, s'inscrire à des camps d'été. Genre, moi, ça a tout le temps été ça. Le modèle que j'ai eu, c'est comme ma mère qui s'occupait de ça, tu sais. Puis mon père qui est comme, Ben non, mais on n'a pas besoin de s'inscrire 3 mois d'avance à des camps d'été. Hey! Il y a des listes d'attente. Genre, tu sais, toute cette charge-là invisible.
Ouais.
De changer, genre, son lavage de la laveuse à la sécheuse. Tu peux pas laisser tes vêtements mouillés pendant 4 heures à la laveuse.
Ouais, puis là, tu décris le travail curatif versus le travail préventif, mais on pourrait peut-être y revenir plus tard. Là,
oui.
Mais je l'ai donné. Il y a vraiment des mots là, qui expliquent cette réalité-là.
Fait que c'est toutes les petites choses comme ça qui, au final, c'est une énorme charge souvent portée par les femmes dans les relations hétéro.
Ouais.
Et donc, si je comprends bien, il y a un aspect cognitif, mais aussi émotionnel à la charge mentale.
Oui, tout à fait. Là, ça peut venir, ça devient drainer les gens. Tu peux avoir une fatigue relationnelle, une fatigue émotive. Ça peut créer beaucoup de frustration dans un couple aussi, des insatisfactions dans ta relation. Moi, d'expérience vécue, je l'ai eu là, d'avoir un partenaire qui ne fait pas autant la vaisselle que moi, qui ne fait pas autant le ménage que moi, qui ne ramasse pas la litière de notre chat. Ça vient nous affecter dans nos relations, là, carrément. Donc, ça a vraiment des impacts réels.
Ouais. Des fois, c'est difficile à le voir. C'est quand que tu commences un peu à t'éduquer sur le sujet, mais à te rendre compte que comme c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est pas juste comme « Ah, j'ai vidé la vaisselle aujourd'hui », tu sais. Des fois, quand t'essaies d'en parler avec ton ou ta partenaire, c'est comme « Ouais, mais tu sais, je l'ai faite la semaine passée. » Oui, mais c'est moi qui le fais, genre, depuis 10 fois. Tu sais, c'est comme... C'est ça, le mot invisible est vraiment important parce que c'est ça qui crée des conflits dans les relations, sauf que la personne ne voit pas, justement, tout ce travail-là parce que c'est invisible. Fait que c'est là qu'il peut y avoir une communication qui... C'est ça qui est plus difficile, mettons.
C'est insidieux, justement, vu que c'est invisible, c'est plus difficile à le faire rendre compte à notre partenaire, mais même à nous-mêmes. Là, ça peut prendre du temps avant que nous-mêmes, on réalise la charge qu'on porte sur nos épaules, puis on sent une fatigue, puis une frustration, puis voyons, ça vient d'où.
Ouais.
Puis quand on commence à faire le compte, justement, comme Rosie dit, de toutes les choses que tu accumules, tu vois, oh non, il y a vraiment des mots qui expliquent qu'est-ce que je suis en train de vivre.
Mm-hmm.
Ouais.
Et la charge mentale, c'est souvent associé aux femmes. Mm-hmm. Pourquoi, selon vous?
Bien, moi, quand je repense à ça, je pense à quand on est jeune. Quand t'es jeune, puis évidemment, on va généraliser, mais tu vas à la garderie, puis quand t'es une petite fille, tu te fais donner une poupée. Chez toi, quand tu vas grandir, tu vas commencer à... Ta mère va te montrer à cuisiner, à faire le...
T'as une cuisinette pour enfants, là?
Oui, tout, mais tu sais, genre...
Des jouets balais, des jouets mop, des jouets... J'avais tout ça, quand j'étais
petite. C'est ça. Fait que tu penses, mettons qu'on parle de tout ce qui est justement d'être avec des... De prendre soin... Puis de prendre soin aussi de ton environnement, fait que ménage, blablabla. C'est souvent les tâches quotidiennes qui vont être montrées aux filles dans les maisons, par exemple. Versus un homme, on va leur apprendre à tondre le gazon. Fait que là, ces temps-ci, on parle justement des charges mentales sur nos plateformes. Puis là, il y a des hommes qui nous écrivent « Ouais, mais c'est moi qui passe la tondeuse. » Ce qu'on doit comprendre, c'est que passer la tondeuse 3 fois par été, ce n'est pas la même chose que faire le lavage, faire la cuisine, faire le ménage au quotidien. C'est là que... Puis l'affaire, c'est qu'apprendre à faire le lavage, puis tout, il n'y a rien à apprendre. Non. Genre, il n'y a pas 50 000 façons de faire le lavage, tu sais. Fait que quand il y a cette espèce de discussion-là qui vient en couple, en relation, puis l'autre personne a de la misère à comprendre, c'est surtout ça qui, je pense qu'il faut remettre en... Je sais pas comment dire, mais tu sais... De parler que ce genre de tâche-là, t'as pas à apprendre à faire du ménage.
C'est facile. T'sais, exactement. J'allais dire sur Play, sur ta laveuse.
Mais c'est comme une Play, là. Oui, sur Start, là.
Ça demande pas un range de skills difficile à atteindre. Là. C'est quelque chose qui s'apprend très bien. Puisque Rosie parle, ça s'appelle la socialisation. C'est qu'on va socialiser les gens. On va apprendre des scripts de genre, des rôles de genre différents selon le genre qui est assigné à la naissance du jeune. Puis c'est ça, ça vient s'inscrire. On va donner des jouets différents. On va parler de manière différente. On va renforcer des comportements différents aussi. Fait que ça s'explique aussi par la psychologie, nécessairement. Là, fait que...
Et c'est drôle que tu dises les jeux de poupées en enfance, parce que moi, je me rappelle que j'avais une poupée, bien évidemment, puisque je suis une fée. Et ma mère me disait qu'à un certain moment, j'allaitais ma poupée et je faisais comme si j'étais enceinte. Et c'est tellement fou. C'est comme si j'étais un enfant moi-même et je m'occupais aussi d'un enfant. C'est vraiment quelque chose qui est à remettre en question, d'après moi.
Tout à fait. Là, je me rappelle de faire les jeux de maman-papa, puis de trucs comme ça. Puis mes Barbies passaient l'aspirateur dans leur maison Barbie. Puis tu sais, c'était vraiment ça. Puis je regarde, tu sais, moi, j'ai un grand frère. Jamais la vie a touché à ce genre de jouets. Tu sais, lui, il avait des petits canifs, puis des jouets fusils, puis d'autres trucs. Tu sais, il apprenait à jouer avec le bois, puis jouer avec le matériel, puis comme faire des trucs plus physiques, visibles, versus moi, j'apprenais à jouer avec des trucs invisibles. Mm-hmm. J'apprenais, je performais ma future charge mentale. Puis ça a un impact réel sur nos relations actuelles.
Mais cette charge mentale qui est souvent associée aux femmes, elle est présente dans les relations hétérosexuelles, mais pas dans les relations queer ou pas autant. Donc, est-ce que ça pourrait être expliqué par la socialisation, justement?
Oui. Là, c'est pas tiré d'études. Là, c'est vraiment des hypothèses. On y réfléchit en faisant l'épisode. Mais, tu sais, il y a la théorie des scripts sociaux qu'on appelle. Donc, on va grandir en voyant, mettons, des modèles à la télévision, dans des livres, dans les séries qu'on écoute. Puis, on va apprendre par modèle, dans le fond, à travers ces modèles-là. Fait que quand moi, je grandis, puis je regarde un film rom-com, puis je vois les rôles de genre. Ou, tu sais, je grandis, puis je vois mes parents, je vois les rôles de genre. Je vais apprendre par modèle pour ça. Puis, quand on prend un peu de recul, on voit qu'il n'y en a pas de modèle queer, il n'y en a pas de modèle alternatif, il n'y en a pas de modèle. En tout cas, dans l'époque dans laquelle on grandit, là, si je prends notre tranche d'âge, aujourd'hui ça change puis ça s'améliore. On dit, OK, il n'y en a pas de modèle, fait que les personnes queer, en grandissant, en rentrant dans des relations amoureuses, ils ont dû comme un peu refaire leur propre code, leur propre manière de fonctionner. Et donc, ça laisse place à plus de flexibilité, à plus de communication, à plus de négociation au sein des relations. Puis je pense aussi que. Une fois que tu brises un code, donc celui de la sexualité ou de la configuration relationnelle normative, c'est plus facile de briser d'autres codes par après. Fait que c'est plus facile de venir confronter ton partenaire puis d'avoir une communication qui est empathique, une écoute active aussi au sein de tes relations pour venir comme renégocier tous ces scripts hétéronormatifs-là qu'on a appris en grandissant.
C'est ça, parce que tu n'auras pas d'étape à faire, par exemple, versus dans des relations hétéro où tu es comme, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu as presque une liste, tu arrives en relation puis... Tu sais ce qui serait attendu de toi.
Ouais.
T'arrives dans une relation queer où, au contraire, tu fais exactement tout ce que tu veux parce qu'il y a personne qui t'a démontré comment le faire, comme la théorie des scripts sociaux. Fait que je pense que dans les relations queer, vu qu'il y a une communication qui est beaucoup plus ouverte puis il n'y a pas de script à suivre, t'arrives à avoir une division beaucoup plus équitable des tâches aussi. Ouais. Parce que là, tu te bases beaucoup plus sur les forces, faiblesses que sur ce qu'on s'attend de toi.
On n'est pas en train de dire que les personnes queer intériorisent pas des scripts normatifs. Au contraire, tout le monde les intériorise parce que c'est la société dans laquelle on vit, mais il y a plus de place pour les remettre en question.
Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que, comme dans une relation hétérosexuelle, c'est comme pris pour acquis certaines responsabilités et tâches, alors que si je me questionne par rapport aux relations queer, tout doit être communiqué parce que rien n'est pris pour acquis, comme vous avez dit, par rapport au rôle et au script sexuel. Donc, dans les relations hétérosexuelles, j'ai l'impression que la première fois que la charge mentale se fait ressentir chez la femme, c'est lorsque le couple décide d'emménager ensemble. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des...
Moi, même avant d'emménager ensemble, ben, tu sais, mettons, j'ai déjà habité avec un copain par le passé. Ça, c'était très présent, ça se voyait très bien. Mais même sans ça, dans le monde du dating, tu sais, si je fréquente quelqu'un sur plusieurs mois, juste en allant chez la personne versus que la personne vienne chez moi, je vois les différences de comment je m'implique quand je vais chez le garçon en question, comment je lave mes verres au fur et à mesure, je lave ma vaisselle au fur et à mesure, je vais faire son lit en quittant le matin si lui est déjà parti au travail.
C'est exactement.
Je vais vraiment je vais être beaucoup plus impliquée dans son domicile quand moi, j'y suis parce que je me dis, oh, mais tu sais, c'est moi qui ai sali telle chose, je vais le nettoyer. Versus quand les garçons viennent chez moi, puis on prend un verre de vin, tu sais, peu importe, on fait de la vaisselle, on soupe ensemble. Je me retrouve souvent, mettons, je vais cuisiner pour mes dates, on cuisine ensemble, puis ils vont être super impliqués dans la préparation du repas en tant que tel. Mais une fois que c'est le temps de faire la vaisselle après, je me retrouve à être seule devant l'évier pendant qu'on jase, puis je m'en rends même pas compte, là. Souvent, je m'en rends compte après, je me dis, hey, viens donc, je suis la vaisselle pour le fun, tu sais. Fait que même sans, en colocation, ça se rend comme ça en petite subtilité. Même dans l'organisation des dates en tant que telle aussi, ça va se ressentir. Avoir la charge de planifier, OK, on se voit où, à quelle heure? Est-ce qu'il va pleuvoir ce jour-là? Va-tu faire beau? OK, genre, on s'habille de telle façon pour y aller. T'sais, toutes tes petites affaires, ça se ressent même avant la colocation, là, je pense.
Ouais. Quand tu parlais, ça me faisait penser. J'ai juste pensé, j'ai jamais habité avec mon partenaire. Ben oui, mais juste durant la COVID. Mais dans le dating, c'est vraiment cave, mais faire le lit.
Oui.
Genre, moi, quand j'allais dormir chez un gars, puis il partait, mettons, avant moi pour aller au travail ou whatever, je fais le lit, tu sais. Mais je suis comme, j'ai même pas à y penser, je fais le lit. Il y a pas une personne qui a fait son lit chez nous, tu sais. Fait que c'est quand même spécial. Puis, comme tu dis, aussi dans tout ce qui est organisation des dates, que ça soit en relation ou dans le dating, tu sais, à un moment donné, t'avais l'Halloween, me semble, puis il y avait quelque chose par rapport... Non, c'est pas ça. La sortie de bowling.
Oui. Mais la c'est une anecdote qui en regroupe plein, mais tu sais, c'est une sortie de bowling avec des amis, puis là, c'était, OK, ben on y va à quelle heure? Le truc de bowling, il va à quelle heure? C'est quoi l'adresse? Ah, il annonce la pluie, t'as-tu ton parapluie? Ah, ben là, ça se peut que mon match finisse plus tard. Okay, mais il va finir à quelle heure? Parce que nous, on a des amis qui nous attendent, puis il faut aussi que je pense à dire à mes amis à quelle heure on se rejoint, parce que je veux pas qu'ils nous attendent pendant une heure et demie, tu sais, puis comme tout ça, puis... C'était comme une nonchalance totale venant de mon partenaire à ce moment-là. Puis j'étais comme... Puis ça venait vraiment avec une incompréhension. Mais pourquoi t'es stressée pour ce genre de choses-là? Tu sais, pourquoi t'as... Tu sais, c'est pas grave, on va y aller. Go with the flow, genre. Tu sais, go with the... Puis j'étais comme, hey, on y va avec des gens. On y va, tu sais, comme...
tout le travail, justement, le travail préventif que je suis en train de faire, prévoit qu'on aura une belle soirée.
Mm-hmm.
Puis, je pense qu'il y a aussi un... Là, je vais faire ma féministe frustrée, puis je l'assume pleinement, mais... Ah, oh, j'ai déjà oublié ce que j'allais dire. Bon. Oh non, ça a l'air bon.
Ah, j'étais prête.
Oh non.
Mais ça va revenir.
Ça va revenir.
OK, je vais raconter. Moi, je me suis déjà sentie dans la position où quelqu'un prend toute la charge mentale, puis ça, c'est avec mon ex.
Ouais.
Moi puis mon ex, mettons... OK, quand on allait en voyage... Mon ex-ex, OK? Juste pour que tu saches qui. C'est quelqu'un qui était très... par rapport, justement, à toute la logistique, c'est comme... C'est lui qui prend en charge. Ouais. Yo, t'es tellement bien quand quelqu'un prend tout en charge.
Hey, t'as rien à penser, là.
Puis ça, c'est... Genre, ça sort de l'ordinaire parce que, mettons, dans plusieurs... Dans toutes les sphères de notre vie, c'est beaucoup moi qui prends en charge, mais par rapport à la logistique de voyage, c'est lui.
Ouais.
Ça n'a aucun sens. Genre, mon anxiété, là, descend de genre 12 crans. Je suis comme, oh mon Dieu, quelqu'un me prend en charge.
Ouais.
Fait que je me dis, tous les hommes qui ont passé dans ma vie, c'est comme, eux, ils sentent de même. Ils sentent comme sur un petit
radeau, là. Ils vont avec le flow.
Genre,
là.
Oh, on s'en va, genre, à tes amis, à quelle heure, blablabla. Je suis comme, faut le transport, le stationnement. Est-ce qu'il faut acheter des billets? Est-ce que, genre, tout doit être pris en charge. Puis quand tu... C'est rare que j'ai été dans l'autre position, mais à quelques fois, j'ai été dans l'autre position, puis je suis comme, yo, t'es tellement bien. J'ai compris de ne pas vouloir dénoncer le système dans lequel on vit.
Mais t'es dans ils sont bien. T'es complètement privilégié.
Mais bien sûr!
Puis je me rappelle de ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a comme l'argument qui est sexiste de dire « Hey, t'es ben trop stressée. Voyons donc t'es germaine de même. » Tu sais, cette espèce de commentaire-là de « Voyons, relax, t'es ben trop stressée. » Je trouve ça fondamentalement sexiste parce que non, ça vient pas d'une position que toi, t'es nonchalant puis t'es donc ben comme... Oh mon Dieu, j'aime la vie, tralala, tout va bien, arc-en-ciel, puis je vis dans un monde de licorne. C'est pas ça la réalité, c'est que toi, t'es dans un monde de privilégiés, ta réalité n'est pas la même que la mienne, puis je prends sur mes épaules cette charge-là d'organiser. C'est que j'ai pas le choix parce que sinon personne le fait.
Mm-hmm.
C'est pas une question d'être germaine puis d'être stressée de la vie. C'est d'un dominant par rapport à une dominée. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui se passe.
Mm-hmm. Mais oui, ça apporte du stress aussi, par contre, parce que t'es tout le temps dans la position de penser à ces affaires-là.
Mm-hmm.
Puis. Quand t'arrives en relation, tu le réalises plus. Tu sais, quand tu le fais pour toi-même, ça va. Ouais. Mais quand t'es rendu de le faire pour deux, tu te rends compte.
Ouais.
Surtout l'inégalité.
L'inégalité. Oui. Voilà. C'est encore plus frustrant quand ton partenaire te dit « Ben voyons, t'es donc moins stressée.
Mm-hmm. »
Oh, ouais.
Puis en plus, comme toute la date du bowling, puis toutes les questions que tu te posais, comme moi, je pouvais tellement relate parce que je me serais posé les exactes mêmes questions sans même en penser.
Oui, c'est comme automatique.
Ouais. Puis c'est fou. Je peux pas penser à ne pas y penser, en fait.
Ouais.
Donc, c'est vraiment fou à quel point c'est comme ancré en nous.
Ouais.
Et je sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais moi, en tant que... J'ai deux petites sœurs, donc je suis l'aînée et une fille. J'ai l'impression que c'est comme ancré en moi, là, de toujours penser à tout. Est-ce que mes sœurs sont correctes? Non, en tout cas.
Oui. Ben moi, nous, on est quatre, puis je suis aussi la plus vieille.
Ouais.
Mais on est deux filles, deux gars. Puis j'ai tout le temps été, oui, la germaine, mais aussi la... Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, la personne qui s'assure de, genre, de la sécurité de tout le monde, que, genre, tout va bien, genre, tout est correct. Puis c'est sûr que quand j'arrive dans l'âge adulte, je suis très « mom » dans mes relations, puis je me le fais dire aussi, comme, je suis comme « t'es-tu correct? » Genre, physiquement, émotionnellement, t'es-tu correct? Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis je sens beaucoup l'énergie des gens, fait que quand... Quelqu'un se sent pas bien, on dirait que je le sens, tu sais. Ça, je pense que ça vient de mes frères et sœurs, justement, que je... Tu sais, mes parents étaient très présents. C'est juste que quand il y a beaucoup d'enfants, nous, on était quatre, on donnait, ils nous laissaient comme, faire notre vie, tu sais. Ouais. Fait que je prenais souvent cette position-là de mère, de comme, je m'occupe d'eux, tu sais.
Ouais.
Puis après, j'arrive dans mes relations, puis je suis comme, ah, c'est un peu ça que je fais, tu sais.
On dirait que je serais curieuse d'aller voir s'il y a des études qui sont faites sur, tu sais, parce que c'est des traits très typiques des enfants plus vieux d'une fratrie.
Ouais.
S'il y a une différence entre les plus vieux d'une fratrie qui sont des hommes, qui ont été socialisés comme tels, puis ceux qui ont été socialisés comme des femmes, s'il y a une différence au niveau de la charge mentale qui est prise sur les épaules des jeunes.
Mmh. Ouais.
Mais j'ai vu une étude, en fait, qui disait que les plus vieux d'une fratrie qui sont des filles et les plus vieux d'une fratrie qui sont des hommes ont tendance à être en couple ensemble. Et la même chose pour les plus jeunes, parce que j'imagine parce qu'ils se ressemblent et ils peuvent un peu avoir cette compréhension. Mais selon l'étude, ça c'est ce que je me rappelle, c'était pas nécessairement le meilleur comme...
Combo.
Exactement. Il fallait plutôt être le plus vieux avec le plus jeune. Mais,
okay.
Mais bon, ça c'est à revérifier.
OK. On va faire du matching.
À suivre.
Ouais. Donc aussi, on en a parlé un peu brièvement, mais la charge mentale, quand on y pense, la première chose qui vient en tête, c'est les tâches ménagères.
Oui, tout à fait.
Mais il y a aussi autre chose...
comme moi, je pense à préparer le repas. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent en tête?
Mais moi, je dirais, là, en général, s'occuper de tous les détails de planification.
Mm-hmm.
Genre, les cours de natation, les cours de... Genre, tout. Moi, je me rappelle très bien que c'est ma mère qui s'occupait de tout ça.
Oui, c'est la gestion du quotidien.
Oui, la gestion du quotidien. Les rendez-vous.
Oui.
Tout. Genre, les fêtes d'amis, c'est des trucs que je me rappelle que, comme, mon père avait aucune idée, là. Lui, c'est genre, il vivait sur un grand nuage, puis c'était comme...
Dis-moi à quelle heure, puis j'y suis, là.
Oui, c'est mm-hmm. ça. Puis ouais. c'était vraiment... Ma mère, là, tu sais, l'image que j'ai, c'est genre, elle qui court partout dans la maison, qui genre nous prépare tout, qui nous habille. OK, là, on va au cours de natation, mais après, on a telle activité, il va falloir apporter un truc de changement.
Mm-hmm.
Puis je me rappelle que, genre, mon père ou mon beau-père, parce qu'ils sont séparés, c'était vraiment comme des calinours dans un monde de licorne, là.
Ouais.
C'était juste comme, d'accord, on prend les clés de l'auto, on va dans l'auto, puis c'est comme ma mère qui court partout, tu sais. Fait que.
Moi, le moment où ça me frappe le plus, c'est les fêtes de famille. Quand vient le temps des fêtes, observez les femmes de vos familles, juste comme prenez le temps de vous asseoir puis de regarder qui fait quoi et comment ils le font. Moi, c'est frappant. Quand j'ai commencé mes études en sexo, je pense que c'était au cégep, j'avais lu genre, justement de quoi sur la charge mentale, c'est la première fois que je m'étais confrontée au concept. Puis il y avait une question, dit, posez-vous les questions, comment ça marche dans vos fêtes de famille? Fait que le Noël suivant,
oh mon Dieu,
c'était frappant de voir ma grand-mère, moi, ma soeur, ma mère, versus les hommes de ma famille, bien assis confortablement, les pieds sous la table.
Grand verre de vin.
Hey, va donc me chercher une course. Hey, va donc me chercher un verre d'eau, tu sais. C'est vraiment ça. Puis mais c'est frappant. Puis on a des grosses fêtes de famille dans ma famille qui se font moins là, depuis la COVID. On est comme, tu sais, une cinquantaine de personnes dans une salle.
Mm-hmm.
Et c'est les femmes qui gèrent, là. C'est les femmes qui tiennent tout ensemble, qui organisent la soirée, et ce, depuis des générations.
Ouais. C'est dur à remettre en question parce que, comme on disait un peu plus tôt, les hommes sont bien dans cette position-là. Puis honnêtement, je les comprends.
Ouais.
Genre, pour l'avoir vécu à petite échelle, t'es bien, là, quand t'as rien à penser, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est aussi dur à remettre en question...
Mm.
La socialisation qui a été faite à travers ça, parce qu'il y a un groupe qui est bien, tu sais. Ben fait que c'est comme, quand nous, on chiale, c'est genre, mais arrête de, tu sais, pourquoi tu chiales, genre?
Ouais.
Je comprends qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question.
Puis on remet en question aussi la difficulté de faire ce qu'on fait.
Ouais.
Tu sais, c'est comme, là, ça doit pas être pire, là.
Ouais. Mais c'est comme au quotidien, c'est qu'à un moment donné, ça s'accumule, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça. La charge mentale, c'est pas que c'est une chose, c'est un regroupement de planification qui, à un moment donné, ça n'a pas été lourd.
Mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça une charge mentale. Là. Ouais. C'est quelque chose qu'on porte puis qui est lourd. Là.
Ouais.
Puis ça a un impact sur notre santé mentale, en fait.
Oui.
Mm-hmm. Ouais.
Puis il y a plusieurs, discours plutôt masculins que quand on leur parle de charge mentale, ils rétorquent « Ah, mais si tu voulais que je fasse le ménage, t'avais qu'à me le demander, je l'aurais fait. » Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là?
Il y a vraiment... il y a 6 stratégies comme quand même connues là, pour ne pas comme participer aux activités du quotidien, justement, qui se regrouperaient dans la charge mentale. Je peux peut-être les nommer, les 6, puis comme on va donner des exemples. Le premier, c'est l'éloge. Fait que de dire genre, ah, mais t'es tellement meilleure que moi pour faire ça.
Mm.
Tu sais, mettons genre, ah, mais t'es tellement meilleure. Genre, tu sais mieux que moi comment faire le lavage. Hey, comme Rosie a bien dit tantôt, ça prend pas un bac en ingénierie pour faire fonctionner le laveuse. Tu sais, comme t'es vraiment capable. Le 2, l'incompétence instrumentale. Fait que ça, c'est comme de faire mal une tâche ou la faire à moitié, comme pas la faire bien. Je sais pas si t'aurais un exemple à donner, mettons, d'incompétence instrumentale.
Ben, tu fais la vaisselle, mais comme après, tu checkes les verres, puis genre, sont toutes crottées.
Il y a encore des traces de doigts, tu sais.
C'est pis ça.
Ça peut être fait volontairement, mais ça peut l'être fait, tu sais, involontairement. C'est juste un manque de volonté à vouloir bien faire les choses. Ouais. C'est un peu comme à la nonchalance.
Ouais.
La mauvaise humeur. Fait que de chialer. Tu fais une tâche, mais tu chiales. Ah, voyons où est-ce dans l'imprimante qui m'a. Mais l'imprimante, c'est pas un bon exemple, mais tu sais, comme, voyons où est-ce que tu là, j'arrive pas à torcher. Tu sais, enfin, tu sais, de tout le temps chialer. Puis là, toutes les stratégies que je suis en train de nommer, j'en ai nommé 3, ça donne envie à l'autre partenaire du couple, la femme, d'être comme, ben laisse faire, je vais le faire à ta place.
Ouais.
C'est ça que ces stratégies-là ont comme impact. Fait que là, en numéro 4, la résistance passive. C'est de dire, ben je le ferai demain. Ah, je le ferai tantôt. Ça, on la connaît bien. Là,
oui.
Oh, ouais, genre, je vais le faire plus tard. Mais si toi, t'es chez toi, puis t'as envie de faire la vaisselle après ton souper, mais tu vas finir par la faire si ta personne n'arrête pas de le retarder, tu sais.
Ouais.
5, la différence de standard. Fait que, ah, ben moi, la poussière, ça me dérange pas tant que ça, tu sais. J'ai moitié.
Oh, mon Dieu,
non, mais moi, ça me dérange pas tant d'avoir mon linge par terre qui traîne un peu. Tu sais, comme, ça va, tu sais.
Ouais.
ben c'est ça fait juste pousser une autre personne à le faire à ta place. Puis finalement 6, la dépendance. Fait que tu dépends de l'autre. Fait que la personne va avoir peut-être une super bonne volonté de faire une tâche. Moi j'avais un copain qui voulait vraiment 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 m'aider à faire la vaisselle. Mais oh son rangé où t'es dit bon mais j'ai rangé où ton savon à vaisselle. Oh cette coupe-là,
faut que tu les guides par la main.
Cette coupe-là, tu la laves comment? Puis ce couteau-là, tu le ranges où? Puis ta. Fait que tu deviens juste assistant à la tâche. Fait que ça t'enlève pas la charge mentale non plus. Fait que toutes ces stratégies-là, les six, c'est ça, ça donne pas envie. Donc, t'es comme, hey, ben laisse faire, je vais le faire.
Ouais. Fait que ouais. Là, c'est comme la question que tu posais de quand justement quelqu'un te demande genre, ah, oh, ben tu sais. C'était quoi ta question?
C'était en fait une personne qui disait « Ah, oh, mais si tu m'avais demandé oui, de ça. Le faire, ouais. Je l'aurais fait. »
C'est ça. Mais ça, c'est aussi sa place c'est exactement.
C'est la résistance passive. Oui. C'est la numéro 4. C'est ouais. La résistance passive.
Oui, mais c'est aussi le... Ça démontre bien le... Voyons, il manque de mots. L'exemple de la charge mentale, c'est comme si toi, tu le voyais pas. Ouais. Tu sais, c'est comme... T'as besoin de guider quelqu'un par la main oui. Pour qu'il commence à faire des tâches parce que toi, tu le vois pas, tu sais.
C'est ça.
C'est comme un mélange de tout ça, de... Tu sais, ça me dérange pas, tu dépends de l'autre pour faire ouais. Les tâches, il faut comme que tu tiennes par la main la personne, comme si il était pas capable de voir que c'était le ouais. Temps de faire du lavage, c'était le temps de faire la vaisselle. Mm-hmm. Hey,
puis c'est insultant là, je me suis déjà fait dire plein de fois, ben tu sais, je l'aurais fait si tu me l'avais demandé, mais la charge est tout de même là. Tu sais, la charge, c'est quelque chose de limite subconscient là, tu sais, on n'y pense pas, tu sais, c'est fait que d'être comme devoir te rappeler de te dire de faire telle tâche, ça reste une charge mentale pour moi de devoir ouais, te ouais. Rappeler de faire ça. Je deviens esti ta secrétaire, genre c'est pas ça le rôle. Quand on cherche une égalité au sein des relations hétérosexuelles, c'est tu prends de l'initiative mm-hmm. Puis c'est ça qui manque chez nos partenaires la plupart du temps, c'est l'initiative, c'est de développer ce réflexe là à savoir quelle tâche faire au moment de les faire et non pas d'avoir justement ta petite secrétaire qui dit ah, c'est l'heure de faire le lavage.
Ouais.
Ouais.
Puis je pense aussi dans les relations hétérosexuelles, j'avais lu quelque part que quand t'es une femme qui devient dans une relation amoureuse, c'est la vie de ton partenaire, en fait, qui prend toute la place, oui. Non seulement lui, mais ses amis, sa famille et ses activités. Donc, des fois, tu viens à lui rappeler « Ah, oh, mais c'est la fête de ta mère. Est-ce que tu lui as acheté un oui. Cadeau? Ah, oh, mais il y a la fête de ton ami. Est-ce qu'on fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, ouais. c'est, ça devient comme vraiment envahissant, j'ai l'impression.
Ah, tellement.
Mais ça se fait, là. C'est fou parce que ça se fait tout seul. Genre, je me rappelle, mes deux ex, c'est genre « Yo, c'est la fête de ton frère. C'est la fête de ta mère. Attends, il faudrait faire quelque chose. » Puis des fois, c'est genre « Ouais, ouais! » Tu vois qu'ils ont complètement oublié, mais le problème, c'est qu'ils s'attendent à ce que tu leur dises. T'sais, ils savent que tu vas le faire.
Ouais.
Fait que je pense que ça devient super inconscient, mais ce genre de choses-là, ils ouais. Se disent, ça n'a pas à faire partie de, t'sais, du genre de pensée que j'ai à avoir dans ma journée parce que ma partenaire va me le rappeler. T'sais, ouais. Le nombre de fois que j'ai dû rappeler des fêtes, c'est pas mon ami, c'est ton ami.
Ouais, ouais, ouais.
Genre, puis ça se fait tout seul.
Ouais.
C'est vraiment juste que, OK, oui.
Ouais.
Allô, oublie pas de dire bonne fête, blablabla. C'est fou, tu sais.
Mm-hmm. Ça montre à quel point le parapluie de la charge mentale est large. C'est pas juste des tâches ménagères, c'est on doit te rappeler de gérer tes relations interpersonnelles.
Ouais.
Hey, ça va loin, là.
Ouais.
Ouais.
C'est tellement grave. Ouais. Je pense juste à toutes les personnes qui nous écoutent, ils sont genre, oh non. Oh non. Moi qui pensais être dans une relation équitable. Oups.
Mon chemin féministe. Ouais.
Genre, oh, Seigneur. Mais en même temps, c'est comme on dit, on a de la misère à remettre tout ça en question parce que le groupe dominant est bien là-dedans. Fait que, oui, t'sais,
ils sont confortables.
Oui, j'y comprends.
Oh, ouais.
Oui, donc quand on parle de charge mentale dans une relation amoureuse, ça se traduit inévitablement aussi dans la sexualité ouais. Du couple. Donc, un dérivé du concept de la charge mentale a été introduit récemment, la charge sexuelle.
Mm-hmm.
C'est quoi?
On veut parler de contraception en premier. Ouais. Je pense que comme personne n'est surpris ici que la majeure partie de la contraception, c'est la personne qui porterait l'enfant qui a cette charge-là. Ouais. Fait que ça soit de payer, de s'occuper, de prendre la pilule à la bonne heure.
Ouais.
Genre, tout ça, c'est une charge de vivre avec les effets secondaires. Ouais. Puis c'est jamais quelque chose qu'on remet en question, ouais. Encore une fois. Fait que, puis même quand, par exemple, moi, je suis sur la contraception naturelle, c'est-à-dire que j'évalue les signes et les symptômes de mon corps pour savoir mes périodes de fertilité.
Tu n'utilises pas de méthode barrière ou c'est d'hormones. Ça. Fait que c'est vraiment...
C'est ça. Puis là, j'arrive, mettons... dans le dating surtout.
Ouais.
Puis je suis comme, bon, on a une relation sexuelle, blablabla, puis là, hey, t'es sa pilule. Tu sais, c'est vraiment comme pris pour acquis ouais. Que la contraception, c'est moi qui s'en occupe. Tu sais, des fois, c'est comme limite, genre, pendant la relation sexuelle, ouais. Hey, juste être sûr, comme, tu sais, c'est fou, ouais. Là. Eux, ouais. Ils pensent pas, puis ils vivent leur grande vie, puis c'est comme, ben, au pire, tu tombes enceinte, tu te feras avorter, tu sais. Genre, c'est le genre de discours qu'on peut entendre pour vrai, là.
C'est d'arriver... Moi, je trouve que ça a des impacts, mais dévastateurs, là. Mettons, dans l'épanouissement sexuel des partenaires, parce que si t'arrives dans une relation sexuelle, on prend exactement la même définition que charge mentale, puis on l'applique à charge sexuelle. Fait que c'est de penser à la gestion, puis là, au lieu du quotidien, on parle de la sexualité. Fait que se protéger des STS, se protéger d'une grossesse involontaire, s'assurer que son partenaire a du plaisir. Ça fait que t'as deux partenaires. Il y en a un qui est... S'il y a du stress de performance, il y aura peut-être ça. Il y a comme ces petits problèmes c'est individuels. Pas pour, c'est pas pour diminuer sa souffrance réelle. Mm-hmm. Fait que t'as un partenaire qui a ses stress sexuels, puis qui focus sur son plaisir. Puis d'un autre côté, t'as une partenaire féminine qui a exactement les mêmes enjeux. Fait que peut-être qu'il y a des enjeux d'estime de soi, peut-être qu'il y a des enjeux de lubrification. T'sais, on a tous nos enjeux sexuels, on en a. Mais en plus de ça, doit stresser. Tu rajoutes la contraception, tu rajoutes les ITSS, t'accumules ça. Fait que qui a le plus de plaisir dans cette relation sexuelle-là, si on fait l'addition? Qui peut plus se concentrer sur le moment présent, sur le plaisir de l'autre, sur le plaisir de soi? Il y a clairement quelqu'un qui écope là-dedans. Mm-hmm. Fait que ça a vraiment des impacts. Tu sais, de stresser, d'être comme « Hey, le condom est bien mis. S'est-tu fait épicer? Je pense que j'ai oublié d'y demander avant la date. Là. Oh mon Dieu, je pense que, hey boy, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de partenaires sexuels. Là, t'es pas dans le moment présent, t'as pas de plaisir.
Pis c'est pas étonnant après de constater qu'il y a comme le fossé orgasmique de souvent les personnes qui ont un pénis vont avoir un orgasme versus les femmes hétéros, mettons, qui en auront pas dans les relations hétérosexuelles. Mm-hmm. C'est pas genre... Biologiquement, on en a parlé beaucoup, les deux ont le potentiel d'atteindre l'orgasme. Oui. Fait que ce n'est pas étonnant de voir que c'est souvent les hommes cis-hétéros qui vont atteindre l'orgasme dans leur relation sexuelle.
Oui, t'as rajouté de quoi de très important. Le fossé orgasmique n'est pas expliqué par une différence anatomique. C'est de la bullshit, je m'excuse l'expression, mais on n'arrête pas d'en parler au bac en sexo. C'est des homologues. Nos organes génitaux, là, c'est des homologues. Ils se développent de la même façon. Il y en a juste un qui se développe sur du plus long terme et qui devient pénis. Mais tout le monde commence avec un clit.
C'est ça.
C'est vrai, puis tu sais, on n'en parle pas assez souvent. Fait que c'est ça, l'écart orgasmique s'explique entre autres par cette charge mentale-là.
Ouais, le manque d'éducation, puis tout ça, évidemment, mais si... Je sais pas si
j'ai... Mais je peux sortir des statistiques au pire du fossé orgasmique, là, justement, de...
Oui, ah non, j'allais juste dire... T'as juste à te poser la question, je veux dire, en tant que... Si tu regardes la masturbation... la plupart des gens sont capables d'avoir un orgasme dans la masturbation.
Oui.
Puis il n'y a pas de différence nécessairement, sauf si on parle justement de tout ce qui est de socialisation. Oui, c'est vrai que les femmes cis vont peut-être se masturber plus tard, là. Ouais. Mais...
J'ai ici une stimulation clitoridienne donne un orgasme à 9 personnes sur 10 en masturbation.
Voilà. Fait que, tu sais, ça ressemble...
Si on parle de la pénétration, quand la pénétration domine dans un échange sexuel, on est à peu près à une femme sur 5 qui va avoir un orgasme. Donc, on voit vraiment l'écart.
Ouais.
Puis là, on parle de... Ça, c'est des statistiques qui sont tirées d'une étude d'une personne qui est en relation à long terme. Pour ce qui est d'une première relation sexuelle, on parle de personnes hétéros cisgenres. Mm-hmm. 62% des femmes hétéros atteignent l'orgasme lors d'une première relation sexuelle.
Combien? 62?
62%. Les hommes sont à 85. Puis les femmes lesbiennes sont à 75.
C'est ça, fait que c'est comme allô mon sang.
OK, c'est vraiment pas une question d'anatomie du tout là, il y a autre chose en jeu là.
Est-ce que tu te rappelles genre dans ta vie sexuelle si c'est arrivé souvent que tu as atteint l'orgasme dans la première relation?
Honnêtement, c'est dans la dernière année mettons, je commence dans la vingtaine là.
Ouais.
Je vais diviser mon dating en deux parties, la première fois que j'étais célibataire, puis la deuxième fois que j'étais célibataire. La première fois que j'étais célibataire, non, pantoute. Puis j'ai continué mes études en sexo, j'ai lu plus aussi, j'ai expérimenté avec le dating, puis je priorise mon plaisir, en fait, dans les relations.
Mais tu priorises aussi l'éducation. L'éducation aussi, ouais. T'as à communiquer, puis ça, c'est une grosse partie d'éducation. Moi, je me rappelle, la seule fois de ma vie que ça arrivait, j'étais comme « André, tu sais pas ce qui est arrivé! »
C'est vrai, c'est un événement.
Oui.
Tandis que ne pas avoir d'orgasme, c'est un non-événement. Ça devrait pas l'être. Ça va être comme... tabarnak, genre, il n'y a pas mis... En fait, je vais remettre en contexte ce que je veux dire parce que ne pas avoir d'orgasme, l'orgasme ne devrait pas être la finalité d'une relation sexuelle dans tous les cas. Tu sais, l'enjeu en ce moment, on parle du fossé orgasmique pour dénoncer du sexisme dans nos relations sexuelles, mais l'orgasme n'est pas central à une relation sexuelle, mais ça peut dénoter d'inégalité dans les relations sexuelles. Là, j'ai oublié ce que tu disais.
Non, mais c'est juste pour démontrer à quel point quand nous, ça nous arrive...
C'est comme, wow!
Ouais, c'est comme incroyable. Médaille d'or, tu sais. Ouais. Puis après, tu vois complètement de l'autre côté, dans l'autre équipe, ouais. les M6 qui, eux, atteignent l'orgasme. C'est jamais qu'ils vont aller dire à leur, ouais. à leur partenaire, à leur ami, genre, oh my God, j'ai atteint l'orgasme. Ouais.
Wow.
Nous, ça fait partie de nos discussions, puis je veux dire, on en parle avec nos amis, puis c'est fou à quel point on est rendu qu'on doit littéralement éduquer. Ouais. Genre, si on veut avoir du plaisir, faut discuter, genre, de. Tu sais, je sais pas comment dire, là, mais t'es rendu à faire, genre, un cours de, comme, d'anatomie, de genre. Genre, ouais. excuse-moi, là, mais comme la pornographie existe, va ailleurs là, si ça marche pas. Là,
parce qu'il y a une partie saine de, comme, d'être avec un partenaire puis de communiquer, tu sais, qu'est-ce qu'on aime, parce que tout le monde est différent. Fait qu'il y aura tout le temps de l'éducation mm-hmm, quand t'as la sexualité avec un nouveau partenaire. Mais il y a comme un espèce de gap là, quand tu couches avec quelqu'un pour la première fois versus comment tu sais comment faire plaisir à un pénis versus faire plaisir à un clitoris, où il y a comme une espèce de. Tu te retrouves face à quelqu'un qui, on dirait que. Tu sais, cette espèce d'écart-là, vraiment. Fait que je pense que c'est un mélange de un manque d'intérêt. Je pense un manque d'intérêt à vouloir mettre le plaisir de l'autre au centre. Mm-hmm. Et aussi un manque d'éducation. Puis là, je fais pas l'avocat du diable ici, là, mais le clitoris a été comme oublié dans l'histoire, mettons, un petit peu.
Oui.
En fait, la découverte du clitoris en 1545, ça date, là, 1545. Après, notre cher Tissot, il le slut-shame dans son livre Onanisme en 1760. Là, on a un autre gap. Fast forward à nous, la première échographie du clitoris a été faite en 2009.
Ah, oh, mon Dieu.
C'est extrêmement tard. Puis c'est dans les années 2010 qu'on va voir les premières représentations 3D du clitoris. Puis on commence à comprendre qu'il n'y a pas de différence entre clitoridienne et vaginale. Là, on remet ça en perspective. Mm-hmm. C'est en 2010 qu'on réalise qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Puis dans nos fameux chenelières éducation, là, les manuels d'éducation qu'on a tous au secondaire puis au cégep, la première représentation du clitoris complet, c'est en 2021.
Ouais.
Fait que c'est pas pour excuser nos partenaires sexuels au lit, mais il y a un gros un défaut d'éducation à la sexualité sociétale. Fait que ça part aussi de nos enjeux systémiques là, à ce niveau-là. Fait que on a tout un travail collectif à faire là-dessus. Ouais.
Mais je pense aussi que les représentations des relations sexuelles et tout, c'est centré sur l'orgasme, mais d'une manière, c'est pas bien représenté. Mm-hmm. Comme souvent, des fois, les gens ils vont être comme, ah, oh, mais est-ce que t'as atteint l'orgasme? Est-ce que ça s'est passé? Mais c'est pas nécessairement ça le but de la relation, comme t'as déjà dit. Et merde, j'ai oublié où j'allais. J'allais y aller avec ça, mais.
Ben, t'expliquais que l'orgasme, c'était pas nécessairement le centre de la relation sexuelle, mais qu'il y a une représentation.
C'est ça, exactement. Et c'est ça, donc des fois, après la relation, les gens vont être comme ah, est-ce que t'as atteint l'orgasme et tout. Mais bon, je vais y revenir parce que je me rappelle pas qu'est-ce que j'allais dire.
Ici,
mais juste pour revenir à la contraception aussi, c'est intéressant de dire que les femmes. Comme normalement, c'est elle qui s'occupe plus de la contraception, alors que j'ai lu en quelque part que les hommes étaient fertiles 100% du temps, mais les femmes, c'est seulement 4 à 5 jours par mois, et c'est elles qui prennent toute cette charge-là.
Oui,
donc, je trouvais ça vraiment choquant.
Mais encore une fois, tu sais, c'est beaucoup plus gros que juste l'individu.
Oui.
Je veux dire, quand la pilule contraceptive a été popularisée, c'est pas pour rien qu'ils ont sorti une pilule contraceptive pour les femmes cis. Genre, je veux dire, les personnes qui ont fait les études, c'est des hommes. Ouais. Fait que bonsoir.
Fait qu'ils mettent les études, qui les subventionnent, qui les mettent sur le marché. C'est qui les pharmacies? Tu sais,
c'est beaucoup plus gros que nous. Sauf que là, je pense qu'on est rendu à une. Tu sais, là, ça fait comme quelques dizaines d'années que la pilule contraceptive est popularisée. Puis là, on se rend compte de ça, exactement ce que tu viens de dire, de comme, bon, mais moi, je suis fertile genre 4-5 jours par année, tu sais.
Si je fais les calculs, ça marche pas.
C'est ça, ça marche pas. Fait que là, il y a de plus en plus de recherches pour la contraception pour les hommes cis.
Ouais.
Ça avance pas vite,
il y a pas assez de subventions, les gens s'intéressent pas à ça.
C'est ça, parce qu'encore une fois, la moitié de la population en bénéficie. Fait que pourquoi tout remettre en doute, tu sais?
En fait, il y a plusieurs raisons. Puis là, je suis pas l'experte de ce domaine-là, je vais pas prétendre l'être, mais quand on regarde un peu les articles de pourquoi il n'y a pas de pilule contraceptive qui niraient la fertilité des spermatozoïdes, c'est que les participants relatent trop d'effets secondaires. Puis quand on regarde la liste des effets secondaires, c'est exactement les mêmes que nous, on a avec notre pilule contraceptive. Fait qu'on est comme, ben là...
Ouais.
Ouais.
Il y a comme... Il me semble, là,
Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a tout le temps cette prix pour acquis, là, quand t'es en relation hétéro, de comme, c'est la femme qui va s'occuper de la contraception. Fait que, moi, je l'ai... Tu sais, dans mes relations, à un moment donné, t'oublies un peu parce que t'es comme... Bon, tu prends la pilule à un moment donné, genre.
T'es habitué.
C'est ça, t'es habitué. Puis là, t'arrives dans le dating. Puis là, justement, on en parlait récemment dans un autre épisode, mais là, t'es, par exemple, sur la contraception naturelle.
Ouais.
Donc, les hommes pensent que je n'ai aucun moyen de contraception et tout. Fait quand on vient pour en discuter, c'est comme... Ah, OK.
Ouais.
Puis je suis comme, toi, tu fais quoi? Tu peux pas proposer qu'on utilise le condom non plus. Il y a tout le temps cette prise pour acquis de comme, c'est toi qui t'en occupes.
Ouais.
Fait que c'est là le problème, là.
Tu sais, c'est comme t'es dans ta relation, dans ton monde de dating, puis c'est toi qui dois gérer, si t'es sur la pilule en continu, par exemple, ta sécheresse vaginale, ta difficulté d'atteindre l'orgasme, ta difficulté d'avoir de la libido, des seins sensibles, des moody, tu sais, tous ces effets secondaires-là, des nausées, des mal de... Hey, j'avais des migraines quand j'étais sur la pilule, ça avait pas de bon sens. Je dois gérer ça. Je sais que c'est dû à ma pilule, mais je me remets pas plus en question de pourquoi il y aurait pas d'autres solutions pour ma contraception.
Ouais.
Puis c'est en commençant à en parler qu'on est comme, ah, oh, ben, si bol, il y a de quoi d'inéquitable dans ma relation en tabarouette.
Puis j'ai aussi trouvé une étude qui disait que une charge mentale plus légère se traduit par une libido plus élevée chez les femmes. Donc, il y a aussi le désir sexuel des femmes augmente lorsque les hommes les aident à s'acquitter des tâches ménagères et de la charge mentale. Donc, c'est vraiment pour le mieux de la relation en tant que telle.
Oui. Je pense qu'il y a comme une petite frustration qui s'accumule un peu à chaque fois. Puis des fois, tu as de la misère à mettre le doigt sur c'est quoi exactement. Mais toute cette frustration-là crée, veut pas, un écart entre toi et ton partenaire. Puis justement, une frustration. Fait qu'évidemment que cette charge mentale-là, à un moment donné, ça pèse lourd. Puis tu as moins de temps pour tout ce qui est autour, t'as moins de temps pour la sexualité, t'as moins de temps d'avoir du désir parce que ta tête est pleine de tout ça, tu sais. Puis malheureusement, à chaque fois qu'il y a des discussions là-dessus, ça retourne un peu à toutes les excuses qu'André parlait.
Ouais.
Fait que c'est comme un servicieux que cette charge mentale-là, c'est difficile de la briser puis que l'autre personne comprenne. Fait que c'est là que je pense qu'il y a l'espèce d'écart qui se crée entre les partenaires. Puis ça peut vraiment affecter une relation. Mais là.
Oui, ça affecte le désir. J'en ai eu des partenaires, on a essayé de partager la charge mentale. Tu sais, j'étais dans une contraception naturelle. On utilisait le condom comme méthode barrière. Puis mon partenaire s'était donné la mission de regarder quand j'étais en ovulation. Puis moi, j'ai un TDAH, fait que je suis comme, ben parfait, je vais avoir quelqu'un, tu sais, un autre cerveau avec qui m'aider pour me rappeler parce que j'ai de la misère à tenir compte. Ben j'ai fini avec un avortement parce que, genre, la charge mentale n'a pas été bien partagée, puis ah, on a oublié tous les deux, puis tatata, puis c'est comme, ah, genre, quand est-ce que je vais pouvoir être 100% concentrée sur mon plaisir et rien d'autre? Je ne sais pas si c'est possible à court terme, honnêtement.
Oui.
Oui.
C'est toi qui as tout vécu les conséquences de ça, tu sais. C'est comme, l'autre personne est juste comme, ah, OK.
Oupsie.
Oui, tu sais. C'est juste comme,
je me rappelle, oh mon Dieu, je me rappelle d'une fois, j'avais fait un test de grossesse, là, période à part, là, puis il est tombé négatif et la personne m'a fait un high five. Ça, c'était pour, m'a fait un high five. Hey, genre, je suis stressée, ça fait une semaine que je suis stressée. Collé, je vais peut-être être enceinte. Collé, je vais peut-être devoir appeler une clinique. Je vais peut-être devoir passer par c'est pas une chirurgie, là, mais l'avortement par instrument. Puis je vais devoir vivre, tu sais, les effets secondaires. Puis prendre une journée de congé au travail. Puis pas être payée cette journée-là. Puis comment je vais me déplacer parce qu'il faut que quelqu'un m'accompagne. Puis ça, pendant une semaine, ça roule. Puis ça me fait pleurer. Puis je suis pas bien. Puis mon test de grossesse est négatif. Puis tu me fais un high five. Puis tu continues ta journée comme si rien n'était. Hey, mange-moi.
Mais
il y a vraiment... J'étais fâchée.
Mais c'est vraiment une incompréhension.
Mais c'est un manque d'empathie. C'est vraiment comme, je ne vivrai jamais ta situation et je ne pourrai jamais la comprendre, donc je ne me mets pas à ta place de façon inconsciente. Fait qu'il y a, tu sais, c'est vraiment... Puis on peut le voir, là, je veux dire, on a beaucoup plus d'empathie pour des gens qu'on comprend la situation, qu'on l'a vécu. Tu sais, en tant que femme, cis, on se comprend. Fait qu'il y a comme cette empathie-là que tu n'as pas dans les relations hétéros. Fait que c'est ça qui est difficile, tu sais. À chaque fois que tu essaies d'en parler, c'est comme... Ah, tu sais, oui, c'est plate, un avortement. Ouais, c'est fucking dommage, un avortement. Je dois prendre ma journée de congé. Genre, tu sais, tout ce qu'André vient de dire, c'est énorme, là. Ouais. C'est pas juste comme, c'est plate, high five, on passe à autre chose, tu sais. Fait que c'est comme ce manque d'empathie-là qui devient énormément frustrant.
Puis en plus, nous, au Canada, on est quand même privilégiés. Ben, on a l'option d'avoir un avortement. Je peux pas m'imaginer être à la place des femmes aux États-Unis qui n'ont pas cette option-là ou dans les d'autres pays.
Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est couvert par la RAMQ aussi si vous êtes au Québec. Fait que c'est 100% gratuit, peu importe la méthode que vous choisissez.
Donc, je viens de penser à ça, puis je suis comme, bon, moi, ça serait l'abstinence.
Ben, genre, littéralement, j'ai une amie qui habite aux États-Unis parce qu'elle est sportive, puis elle a une bourse universitaire là-bas, puis... C'est un stress tellement, puis elle vit dans un état où l'avortement est illégal, les médecins qui pratiquent c'est illégal, les personnes qui le font c'est illégal. Si tu peux reporter quelqu'un, si tu as un doute que ton voisin a un avortement, tu peux appeler la police, puis ils vont se rendre chez eux. C'est comme, genre,
une surveillance. Ah, oh, c'est terrible!
Mm. Puis ça fait peur, tu sais, c'est comme en 2024, ça arrive. Moi, à chaque fois qu'il y a des élections, j'ai peur parce que je suis comme...
Les débats reviennent de plus en plus aussi.
Oui. Je suis comme, OK, ouais. C'est quand même vraiment grave, là. Je veux dire, dans ma tête, c'est le droit le plus basic et acquis du monde, genre, mm-hmm. dans aucun monde, ça pourrait être remis en cause. Mm. Puis après, tu vois ce qui se passe ailleurs, ça fait vraiment peur.
Puis après, les gens disent que la sexualité, c'est pas politique.
Mm-hmm. Bonsoir!
Ouais.
Et c'est vraiment fou parce que ça démontre aussi que les droits des femmes, c'est vraiment fragile.
Oui,
tout à fait. Jamais acquis. Oui. C'est jamais acquis, puis c'est terrible à dire, mais ce n'est pas acquis.
Oui. Ouais.
Ouais. Puis ensuite, il y a des gens qui disent que le féminisme, c'est du passé. Bon.
On va juste passer là-dessus.
Et boy.
Donc, pour revenir à la charge mentale, ouais. Ça a aussi un effet sur la santé mentale, bien évidemment. Donc, on voit une augmentation d'anxiété et de stress, épuisant, frustrant, consommateur d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous notez?
Mais moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu nommes l'anxiété de... tout ce qui est planification, c'est vraiment... Puis je suis même aussi dans mes amitiés. Beaucoup de genre, je suis la personne qui sait où on va, blablabla. Mais je suis bien là-dedans parce que ça m'apporte un certain contrôle. Puis dans tes amitiés, c'est jamais la même chose que dans ton quotidien avec une relation. Ouais. Parce que ce que je fais pas dans mes amitiés, c'est que je prendrai jamais... Tu sais, mettons, moi puis André, je vais jamais penser que je dois penser pour elle pour la fête de ses amis, pour des activités. Ouais. Versus quand t'es en relation... comme ce qu'on a mis un peu plus tôt, c'est comme, OK, là, je prends la charge aussi de tout ça, du quotidien d'autres personnes. Fait que ça, c'est de l'anxiété que je vis beaucoup en relation. Puis c'est très insidieux parce que vu que c'est invisible, puis tu sais, ces pensées-là que tu as dans ta tête, c'est pas conscient, c'est juste comme...
Ça vient tout seul.
Oui. Si ça fait des années qu'on nous a comme créé un peu comme ça, là.
Ouais.
Fait que tu sais, dépression, burn-out, honnêtement, je peux vraiment comprendre, là. Tu sais, il y a comme tout... Dans mon célibat, en ce moment, je suis comme... « Oh mon Dieu, la vie est donc simple. »
Oh mon Dieu, t'arrêtes pas de me dire à quel point t'es comme t'as pas à gérer quelqu'un d'autre.
Oui, je suis comme c'est léger.
Ouais.
Puis c'est pas normal que j'aie ces pensées-là parce que c'est pas normal que j'aie vécu des relations aussi prenantes.
Ouais.
Tu sais, fait que je me reconnais beaucoup dans ce que tu nommais. Tu sais, tension relationnelle. Bonsoir. Le nombre de conflits que j'ai eus surtout les tâches ménagères et des trucs comme ça, ça revient tellement souvent.
Ouais.
Fait que la solution...
En tout cas, pour donner d'autres exemples, moi, ce que je vois, mettons, dans les modèles vraiment très traditionnels, vraiment l'exemple de la trad wife, là, c'est l'isolement, genre. Je trouve que, mettons, je regarde, je sais pas, des relations de grand-père, grand-mère là, que je connais dans mon entourage, ou quand on fait des soupers de famille, la grand-mère, donc la figure féminine dans le couple, est tout le temps en train de faire le ménage, de servir les gens, d'aller porter les assiettes, de laver la vaisselle, d'être tout le temps dans la cuisine ou ailleurs en train de faire du ménage pendant que tout le monde est autour de la tablée en train d'avoir un moment en famille.
Mm-hmm.
Ça crée une espèce d'isolement. Ouais. Puis je peux pas m'empêcher de le remarquer. Je me dis comme, oh mon Dieu. Ouais, je trouve que ça a cet effet-là un peu que je trouve
T'as comme pas désolant. Le choix de te priver de ce beau moment si tu veux que les autres aient un beau moment.
Exact.
Ouais. Fait que c'est comme... Ouais. Parfait, vous allez jaser ensemble et tout. Ben moi, je vais faire la vaisselle puis je vais commencer à ramasser les trucs, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il y a tout ce côté-là qui, évidemment, affecte une santé mentale. Mm-hmm. C'est sûr, là. Je veux dire, les relations hétéro, t'as juste à parler à tes amis autour de toi, tu te rends compte qu'il y a une énorme charge mentale. Ça le dit, là, mentale. Fait que c'est comme... Oups, j'ai accroché mon micro.
Ouais.
Fait que oui, ça devient vraiment lourd au bout du compte. Puis j'ai pas encore trouvé la façon dont tu peux ouvrir cette question-là puis en parler. Parce qu'il y a beaucoup les excuses qui viennent.
Les fois que j'ai fait, ça a créé des conflits.
C'est ça. Fait que là, tu te dis, oh, mais je vais fermer ma gueule la prochaine fois. Tu sais, j'en parlerai pas, puis je vais le faire à la place. Parce que tu vas t'éviter un conflit.
Ouais.
Si j'ouvre la discussion, il va y avoir un conflit, ça me tente pas de passer genre 3 heures à m'obstiner. Fait que je vais le faire. Là, c'est ça, mais comme sur des semaines, des mois, des années, puis après, ça devient ton quotidien, puis t'es pris dans ce servicieux-là. Fait que je pense que le but, c'est de le briser le plus rapidement possible. Ouais. Fait que d'être alerte à tous ces signes-là qui démontrent justement une charge mentale qui est prise par toi, puis de le dénoncer de façon... je sais pas.
Mais tu sais, c'est comme... c'est comme n'importe quel apprentissage de justice sociale. Là, si t'es face au groupe dominant, donc ça va commencer par du déni. Après, ça va finir par de l'écoute. L'écoute va se transformer en compréhension. Puis la compréhension va finir éventuellement par du changement.
Ça peut prendre des mois, des semaines, des années.
Puis c'est vraiment dommage à dire parce que c'est comme ça devient une charge mentale de plus de devoir éduquer nos partenaires. C'est très triste. Fait que, tu sais, l'influence du féminisme sur les hommes, est-ce qu'on peut dire que les hommes, ce sont des vrais alliés?
c'est difficile à répondre, surtout mm-hmm. au sein des relations hétérosexuelles. T'es comme en relation avec ton seul... ton seul groupe dominant. Ouais, t'sais, ouais. T'sais, c'est comme...
Un versus un, fait que c'est...
C'est ça, c'est vraiment ça. Fait que, c'est d'ouvrir les conversations, mais je pense que d'avoir un partenaire qui a des qualités d'écoute, qui a des qualités de remise en question, mm-hmm. Qui lit, qui s'intéresse par lui-même, qui est autonome dans ses apprentissages féministes, ça l'aide grandement. Et même là, ça ne fait pas tout. J'en suis la preuve vivante, j'ai des partenaires qui se proclamaient pro-féministes, alliés, etc. Et ça n'a pas fonctionné pour certaines mm-hmm. de ces raisons-là. Ouais. Fait que... beaucoup de patience, mes chers.
Ouais. Mais je pense aussi que, je veux pas rajouter une charge mentale, mais je pense que c'est aussi du travail par rapport à nous-mêmes, ouais. de reconnaître qu'on prend la charge mentale, mais aussi de travailler à déconstruire ces réflexes ou ces préjugés, ouais. que l'on a et qu'on fait juste par rapport aux fêtes, comme on a dit, ou plein de petits trucs comme ça. Il faut vraiment comme... se forcer à s'arrêter,
ouais.
je pense.
Mm-hmm. Ouais, c'est difficile pour certaines, oui. d'entre nous de comme être comme il va manquer la fin de son habit, ce n'est pas mon problème.
Ouais.
C'est un travail qui est difficile à faire en effet, ouais. là, de comme de c'est pas déléguer, c'est vraiment d'être comme OK, ça ne m'appartient plus.
Ouais. Ouais. Ça, c'est le nouveau motto de ma mère. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Ça ne m'appartient plus, tu sais, parce qu'elle est encore à la maison avec mes frères et sœurs, puis ouais. même avec mon beau-père. Tu sais, en ce moment, mettons, ils planifient un voyage. Tantôt, on fait ça avec ma mère. Ouais. Tu sais, c'est ma mère là, qui s'occupe de genre la location de ouais. où, blablabla. Bla, bla. Ouais. Puis, je me rappelle qu'elle était comme, en en parlant à mon. Je sais qu'il écoutera jamais ça, c'est correct. En en parlant à mon beau-père récemment, puis elle était comme, tu sais, il va falloir commencer à checker. Elle était comme, hey, non, c'est pas pressant. Ma mère était comme,
hey.
Pour vrai, laisse faire, je vais le faire, tu sais. Puis après, elle s'en voulait parce qu'elle était comme, ouais. j'aurais dû un peu, genre, ouais. le laisser dans le monde. Sauf que après, le problème avec ça, c'est que. Mettons, dans ce type de situation-là, c'est que toi aussi, tu vas être dans le marde. Ouais. Si tu le fais pas, mmh. même affaire pour le lavage, les ménages, c'est dur de lâcher prise parce ouais. que si tu ne le fais pas, personne le fait.
Oui, mmh. j'avais lu un essai, un manifesto, je sais plus trop quoi. Je pense que c'était un manifesto féministe sur justement la charge mentale, puis proposait des solutions. Une d'entre elles, c'était la grève. Donc, puis je l'avais testé avec mon partenaire avec qui j'ai habité en colocation. J'avais comme, OK, je vais pas faire la vaisselle pendant une semaine, voir qu'est-ce qui se passe. La vaisselle est restée là, ça trempait. Puis ça m'a pris tout mon petit change pour pas la faire la vaisselle puis attendre qu'il remarque quelque chose. C'était vraiment le drainant. Fait que la grève, c'est une des solutions. C'est très radical comme solution, mais ça permet de faire, hey, regarde tout ce que je fais. Regarde comme la litière du chat pue. Regarde comme, tu sais, regarde comme l'appartement devient crotté, genre. Il y a ça. Il y a aussi d'écrire noir sur blanc. Voici toutes les heures que je passe dans ma semaine à faire ça. Fait que tu calcules avec ton partenaire. OK, passer le balai, ça me prend combien de temps? Passer l'aspirateur, ça me prend combien de temps? Dépoussiérer, tac, 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 tac. T'accumules tes heures, tu vois, ça, c'est du travail non payé.
Mm-hmm.
Voici ce que je fais. Toi, oui. Et là, je me rappelle plus c'est quoi le nombre de temps libre par semaine que les hommes ont de plus que les femmes en couple hétérosexuel, mais c'est de quoi comme une heure de plus, je pense.
Oh, mon Dieu.
De temps libre pour voir tes amis, pour ta, faire tes hobbies. Il y a vraiment du travail non payé quand t'es en colocation, ouais. en couple hétérosexuel. Fait que de rendre compte de ces temps-là puis d'essayer d'y trouver une espèce d'équité à travers tout ça. Ça, c'est une autre solution qu'il a proposée, mais là, je me rappelle plus du reste. Là. Vite comme ça, ouais.
Ouais, puis tu disais une heure dans les relations hétérosexuelles, mais je peux pas m'imaginer en tant que mère qui a ouais. un travail à temps plein, ouais. comme c'est le cas pour la plupart des mères aujourd'hui dans notre société, et qui rentre à la maison et qui a un autre travail ouais. à temps plein non payé.
Mm-hmm. Donc, ouais. C'est ça... comme si, tu sais, ce qu'on avait là, des dizaines d'années de la femme au foyer, c'est resté. Ouais. Sauf que là, la femme au foyer a un emploi à temps plein. Plus, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme ces mentalités-là sont restées, puis c'est pour ça que c'est social, ça ne pourra pas changer du ouais. jour au lendemain.
Ouais.
Mais c'est tout ça qui est à remettre en question, tu sais. C'est, on voit encore... Tu sais, des femmes au foyer qui ont un travail à temps plein, mais qui font encore tout le travail de la femme au foyer. Puis ouais. beaucoup plus qu'on le pense dans les relations hétéro. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de penser bien loin pour me rendre compte à quel point, oui, mes parents, mais tous les couples plus vieux que j'ai proches dans ma vie, quand tu te poses la question puis tu regardes ça, honnêtement, tu te rends compte à quel point le problème est grave, là.
Ouais,
genre, c'est comme, ah, c'est beaucoup plus présent qu'on y pense.
Puis je viens de me rappeler la statistique du temps, c'était pas une heure par semaine, c'est 30 minutes par jour. Que les hommes ont plus de temps libre.
Ouais.
T'accumules ça sur une semaine.
C'est long, là.
Oh, ouais. T'accumules ça sur une année. Genre, ça monte
ouais.
vite. Là.
Ouais. Ouais. Puis ça, c'est, là, on parle de, comme, du travail à faire, mais ça, c'est sans enlever la charge mentale que t'as dans ta tête. Ouais. Genre, sans cesse, ouais. tu sais. De ouais. planification, de gestion.
Parce que la charge mentale, c'est ça, c'est un nuage flottant constant. Ouais. C'est pas parce que t'as fait ta tâche, check, non, il y en a d'autres qui viennent, puis tu vas te coucher le soir, puis tu penses à qu'est-ce que tu vas faire demain pendant que ton chum fait des beaux rêves à côté de toi, là.
Ouais.
Tu sais, c'est vraiment ça.
Ouais.
Ils vivent tellement dans un monde de
licorne.
Ouais.
Non. Donc, l'épisode arrive à sa fin. Est-ce que vous aviez un petit dernier mot?
Peut-être un mot pour nos messieurs. T'aurais-tu quelque chose à leur dire?
Ben, tu sais, je pense que la meilleure façon d'être allié, c'est de se rendre compte que tu fais partie du problème. Puis de s'excuser, honnêtement, pour toutes les dernières années que t'as fait. Mais c'est vrai! Genre, excuse-toi, écris à tes ex.
Mais demande genuine de reconnaître pourquoi tu t'excuses.
Oui, de reconnaître pourquoi tu t'excuses. Puis je sais que 95% des personnes qui nous écoutent en ce moment sont des femmes. Genre, j'imagine.
Qui s'éduque le plus sur les... T'sais.
C'est ça. Fait que par rapport aux relations hétéro, mettons. Fait que si t'es un homme, de dénoncer aussi quand tu vois ce genre d'agissement-là chez les gens autour de toi. Genre tes amis, tes chums de gars, là.
Ouais. C'est dommage, mais la voix...
La voix masculine porte plus.
Ouais. Aura plus d'impact, là, c'est dans ce sens-là que je veux dire.
Ouais.
Fait que si t'es avec tes chums de gars dans un souper d'amis, puis tu vois que c'est sa blonde qui fait tout, passe-tu donc un petit message.
Ouais.
T'sais, comme t'es au premier rang, là, du problème, donc t'es au premier rang du changement, c'est ça que ça veut dire aussi.
Ouais.
Fait que de prendre action.
Ouais.
Puis de lire, de s'éduquer, d'écouter des podcasts comme ceux qu'on est en train de faire en ce moment, c'est extrêmement important. Ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas parlé, mais une charge émotionnelle dans les relations, c'est qui va faire le plus de travail d'aller s'éduquer sur comment ma relation fonctionne, comment je peux faire en sorte que ma relation va mieux, c'est qui s'achète le plus de livres de développement personnel dans les couples, c'est les femmes. Fait que, en tout cas, de s'éduquer sur ce genre de sujet-là aussi.
Et une agentivité, c'est pas à ta blonde. Ouais, de te dire quoi faire. J'en veux pas, après cet épisode-là, lui demander quoi faire pour l'aider. Prends action.
Ouais.
Fais le lavage. Défais la vaisselle.
Regarde autour
de toi. Vide la litière de ton chat. Passe le balai. Passe, genre, s'il te plaît.
Ouais.
Ça serait... Ça
Puis demande pas des fleurs. Oh, demande pas une médaille pour ton trophée. On a fait des posts, justement, risibles par rapport à ça, de comme... Oh, regarde, chérie, pendant que t'étais au travail, j'ai fait la balayeuse. Hey, tu veux-tu genre une remise de diplôme? Non, là, c'est pas je t'aide avec les tâches ménagères, c'est je fais les tâches ménagères.
Ouais.
C'est pas comme je viens t'aider.
Ouais.
Non, il y a beaucoup ça, hein, de genre je le fais pour toi.
Ouais. Ce n'est pas ça.
On tu le fais pour ton domicile, place.
Pour votre logement, pour votre vie commune. C'est pas un cadeau, ce sera jamais un cadeau.
Ouais. C'est vraiment un bon point que t'apportes.
Ouais. Voilà. On sait pas qu'il y a beaucoup de frustration dans nos voix, mais on pourrait en parler pendant des heures.
Oui, c'est ça. Ça pourrait être un épisode interminable. Donc, merci beaucoup d'être venu à notre épisode aujourd'hui. C'était vraiment une conversation enrichissante et j'en ai vraiment appris et j'ai vraiment adoré discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. C'était Maya, Rosie et André pour le podcast Écoféministe et merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les communiquer par message privé ou courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous partager sur vos réseaux sociaux et restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast. Prenez soin de vous.
Merci, Maya. Bye.